La prisonnière, chapitre 1er, suite 6. Le lendemain de cette soirée, où Albertine m'avait dit qu'elle irait peut-être, puis qu'elle n'irait pas chez les Verdurin, je m'éveillais de bonne heure, et, encore à demi endormie, ma joie m'apprit qu'il y avait, interpolé dans l'hiver, un jour de printemps. Dehors, des thèmes populaires finement écrits pour des instruments variés, depuis la corne du raccommodeur de porcelaine ou la trompette du rempailleur de chaises, jusqu'à la flûte du chevrier, qui paraissait dans un beau jour être un pâtre de Sicile, orchestrait légèrement l'air matinal, en une ouverture pour un jour de fête. Louis, ce sens délicieux, nous apporte la compagnie de la rue, dont elle nous retrace toutes les lignes, dessine toutes les formes qui y passent, nous en montrant la couleur. Les rideaux de fer du boulanger, du crémier, lesquels s'étaient hier abaissés le soir sur toutes les possibilités de bonheur féminin, se levaient maintenant comme les légères poulies d'un navire qui appareille et va filer, traversant la mer transparente sur un rêve de jeunes employés. Ce bruit de rideaux de fer qu'on lève eût peut-être été mon seul plaisir dans un quartier différent. Dans celui-ci, cent autres faisaient ma joie, desquels je n'aurais pas voulu perdre un seul en restant trop tard endormi. C'est l'enchantement des vieux quartiers aristocratiques d'être, à côté de cela, populaire. Comme parfois les cathédrales en eurent non loin de leur portail, à qui il arriva même d'en garder le nom, comme celui de la cathédrale de Rouen, appelée des libraires, parce que contre lui, ceux-ci exposaient en plein vent leurs marchandises. Divers petits métiers, mais ambulants, passaient devant le noble hôtel de Guermantes et faisaient penser par moments à la France ecclésiastique d'autrefois. Car l'appel qu'ils lançaient aux petites maisons voisines n'avait, à de rares exceptions près, rien d'une chanson. Il en différait autant que la déclamation, à peine colorée par des variations insensibles, de Boris Goudounov et de Péléas. Mais d'autre part, rappeler la psalmodie d'un prêtre au cours d'office dont ces scènes de la rue ne sont que la contrepartie bon enfant, foraine et pourtant à demi liturgique. Jamais je n'y avais pris tant de plaisir que depuis qu'Albertine habitait avec moi. Elle me semblait comme un signal joyeux de son éveil, et, en m'intéressant à la vie du dehors, me faisait mieux sentir la pesante vertu d'une chère présence, aussi constante que je la souhaitais. Certaines des nourritures criées dans la rue, et que personnellement je détestais, étaient fortes au goût d'Albertine, si bien que Françoise en envoyait acheter par son jeune valet, peut-être un peu humiliée d'être confondue dans la foule plébéienne. Bien distinct dans ce quartier si tranquille, où les bruits n'étaient plus un motif de tristesse pour Françoise et en étaient devenus un de douceur pour moi, m'arrivaient, chacun avec sa modulation différente, des récitatifs déclamés par ces gens du peuple, comme il le serait dans la musique, si populaire de Boris, où une intonation initiale est à peine altérée par l'inflexion d'une note qui se penche sur une autre. Musique de la foule, qui est plutôt un langage qu'une musique. C'était « Ah, le bigorneau, dessous le bigorneau !» qui faisait se précipiter vers les cornets où on vendait ces affreux petits coquillages qui, s'il n'y avait pas eu Albertine, m'eussent répugné. Non moins d'ailleurs que les escargots, que j'entendais vendre à la même heure. Ici, c'était bien encore à la déclamation à peine lyrique de Moussorgski que faisait penser le marchand, mais pas à elle seulement. Car après avoir presque parlé, les escargots, ils sont frais, ils sont beaux. C'était avec la tristesse et le vague de Maeterlinck, musicalement transposé par Debussy, que le marchand d'escargots, dans un de ces douloureux finales par où l'auteur de Péléas s'apparente à Rameau, « Si je dois être vaincu, est-ce à toi d'être mon vainqueur ?» ajoutait avec une chantante mélancolie, « On les vend 6 sous la douzaine !» Il m'a toujours été difficile de comprendre pourquoi ces mots, fort clairs, étaient soupirés sur un ton si peu approprié, mystérieux, comme le secret qui fait que tout le monde a l'air triste dans le vieux palais où Mélisande n'a pas réussi à apporter la joie, et profond comme une pensée du vieillard Arkel qui cherche à proférer, dans des mots très simples, toute la sagesse et la destinée. Les notes mêmes sur lesquelles s'élève, avec une douceur grandissante, la voix du vieux roi d'Allemonde ou de Golan pour dire « On ne sait pas ce qu'il y a ici, cela peut paraître étrange, il n'y a peut-être pas d'événements inutiles. » Ou bien « Il ne faut pas s'effrayer, c'était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde. » était celle qui servait au marchand d'escargots pour reprendre, en une cantilène indéfinie, « On les vend 6 sous la douzaine. » Mais cette lamentation métaphysique n'avait pas le temps d'expirer au bord de l'infini. Elle était interrompue par une vive trompette. Cette fois, il ne s'agissait pas de mangeaille. Les paroles du libretto étaient « Ton les chiens, coupe les chats, les queues et les oreilles !» Certes, la fantaisie, l'esprit de chaque marchand ou marchande, introduisait souvent des variantes dans les paroles de toutes ces musiques que j'entendais de mon lit. Pourtant, un arrêt rituel mettant un silence au milieu d'un mot, surtout quand il était répété 2 fois, évoquait constamment le souvenir des vieilles églises. Dans sa petite voiture conduite par une ânesse, qu'il arrêtait devant chaque maison pour entrer dans les cours, le marchand d'habits, portant un fouet, psalmodiait. « Habits, marchand d'habits, habits !» Avec la même pause entre les 2 dernières syllabes d'habits que s'il eût entonné en plein chant « Per omnia secula seculorum » ou Requiast in pace, bien qu'il ne dût pas croire à l'éternité de ses habits, et ne les offrit pas non plus comme linceul pour le suprême repos dans la paix. Et de même, comme les motifs commençaient à s'entrecroiser dans cette heure matinale, une marchande de 4 saisons, poussant sa voiturette, usait pour sa litanie de la division grégorienne. À la tendresse, à la verduresse, « Artichauts tendres et beaux, artichauts !» Bien qu'elle fût vraisemblablement ignorante de l'antiphonaire et des 7 tons qui symbolisent 4 les sciences du quadrivium et 3 celles du trivium. Tirant d'un flutio, d'une cornemuse, des airs de son pays méridional, dont la lumière s'accordait bien avec les beaux jours, un homme en blouse, tenant à la main un air de bœuf, et coiffé d'un béret basque, s'arrêtait devant les maisons. C'était le chevrier, avec 2 chiens, et, devant lui, son troupeau de chèvres. Comme il venait de loin, il passait assez tard dans notre quartier, et les femmes accouraient avec un bol pour recueillir le lait qui devait donner la force à leurs petits. Mais aux airs pyrénéens de ce bienfaisant pasteur se mêlait déjà la cloche du repasseur, lequel criait « Couteau, ciseaux, rasoir !» Avec lui ne pouvait lutter le repasseur de scie, car dépourvu d'instrument, il se contentait d'appeler « Avez-vous des scies à repasser? V'là le repasseur !» Tandis que, plus gai, le rétameur, après avoir énuméré les chaudrons, les casseroles, tout ce qu'il étamait, entonnait le refrain « Tam, 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 c'est moi qui rétame, même le macadam. C'est moi qui mets des fonds partout, qui bouge tous les trous, 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 trous. » Et de petits Italiens, portant de grandes boîtes de fer peintes en rouge, où les numéros, perdants et gagnants, étaient marqués, et jouant d'une crécelle, proposaient « Amusez-vous, mesdames, v'là le plaisir !» Françoise m'apporta le Figaro. Un seul coup d'œil me permit de me rendre compte que mon article n'avait toujours pas passé. Elle me dit qu'Albertine demandait si elle ne pouvait pas entrer chez moi et me faisait dire qu'en tout cas, elle avait renoncé à faire sa visite chez les Verdurin et comptait aller, comme je le lui avais conseillé, à la matinée extraordinaire du Trocadéro. Ce qu'on appellerait aujourd'hui, en bien moins important toutefois, une matinée de gala. Après une petite promenade à cheval qu'elle devait faire avec André. Maintenant que je savais qu'elle avait renoncé à son désir, peut-être mauvais, d'aller voir Madame Verdurin, je dis en riant « Qu'elle vienne !» Et je me dis qu'elle pouvait aller où elle voulait et que cela m'était bien égal. Je savais qu'à la fin de l'après-midi, quand viendrait le crépuscule, je serais sans doute un autre homme triste, attachant aux moindres allées et venues d'Albertine une importance qu'elle n'avait pas à cette heure matinale et quand il faisait si beau. Car mon insouciance était suivie par la claire notion de sa cause, mais n'en était pas altérée. Françoise m'a assuré que vous étiez éveillée et que je ne vous dérangerai pas, me dit Albertine en entrant. Et, comme avec celle de me faire froid en ouvrant sa fenêtre à un moment mal choisi, la plus grande peur d'Albertine était d'entrer chez moi quand je sommeillais. « J'espère que je n'ai pas eu tort, » ajouta-t-elle. « Je craignais que vous ne me disiez « Quel mortel insolent vient chercher le trépas !» Et elle rit de ce rire qui me troublait tant. Je lui répondis sur le même ton de plaisanterie. « Est-ce pour vous qu'est fait cet ordre si sévère ?» Et de peur qu'elle l'enfreignît jamais, j'ajoutai « Quoique je serais furieux que vous me réveilliez. »« je sais, n'ayez pas peur, » me dit Albertine. Et pour adoucir, j'ajoutai, en continuant à jouer avec elle la scène d'Esther, tandis que dans la rue continuaient les cris, rendus tout à fait confus par notre conversation. « Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce qui me charme toujours et jamais ne me lasse. » Et à part moi, je pensais, « Si, elle me lasse, bien souvent. » Et me rappelant ce qu'elle avait dit la veille, tout en la remerciant avec exagération d'avoir renoncé au Verdurin, afin qu'une autre fois elle m'obéît de même pour telle ou telle chose, je dis, « Albertine, vous vous méfiez de moi qui vous aime, et vous avez confiance en des gens qui ne vous aiment pas. » Comme s'il n'était pas naturel de se méfier des gens qui vous aiment, et qui seuls ont intérêt à vous mentir, pour savoir, pour empêcher. Et j'ajoutai ces paroles mensongères. « Vous ne croyez pas au fond que je vous aime, c'est drôle. En effet, je ne vous adore pas. » Elle mentit à son tour en disant qu'elle ne se fiait qu'à moi, et fut sincère ensuite en assurant qu'elle savait bien que je l'aimais. Mais cette affirmation ne semblait pas impliquer qu'elle ne me crût pas menteur, et les pia. Et elle semblait me pardonner, comme si elle eût vu là la conséquence insupportable d'un grand amour, ou comme si elle-même se fût trouvée moins bonne. « Je vous en prie, ma petite chérie, pas de haute voltige comme vous avez fait l'autre jour. Pensez, Albertine, s'il vous arrivait un accident. » Je ne lui souhaitais naturellement aucun mal. Mais quel plaisir si, avec ses chevaux, elle avait eu la bonne idée de partir je ne sais où, où elle se serait plu, et de ne plus jamais revenir à la maison. Comme cela eût tout simplifié qu'elle alla vivre heureuse ailleurs. Je ne tenais même pas à savoir où. Oh, je sais bien que vous ne me survivriez pas 48 heures, que vous vous tueriez. Ainsi échangeâmes-nous des paroles menteuses. Mais une vérité plus profonde que celle que nous dirions si nous étions sincères peut quelquefois être exprimée et annoncée par une autre voix que celle de la sincérité. « Cela ne vous gêne pas, tous ces bruits du dehors ?» me demanda-t-elle. « Moi, je les adore. Mais vous, qui avez déjà le sommeil si léger ?» Je l'avais. Au contraire, parfois très profond, comme je l'ai déjà dit, mais comme l'événement qui va suivre me force à le rappeler. Et surtout quand je m'endormais seulement le matin. Comme un tel sommeil a été, en moyenne, 4 fois plus reposant, il paraît à celui qui vient de dormir avoir été 4 fois plus long, alors qu'il fut 4 fois plus court. Magnifique erreur d'une multiplication par 16, qui donne tant de beauté au réveil et introduit dans la vie une véritable novation. Pareil à ces grands changements de rythme qui, en musique, font que, dans un andante, une croche contient autant de durée qu'une blanche dans un prestissimo, et qui sont inconnues à l'état de veille. La vie y est presque toujours la même, d'où les déceptions du voyage. Il semble bien que le rêve soit fait, pourtant, avec la matière la plus grossière de la vie. Mais cette matière y est traitée, malaxée de telle sorte, avec un étirement dû à ce qu'aucune des limites horaires de l'état de veille ne l'empêche de s'effiler jusqu'à des hauteurs énormes, qu'on ne la reconnaît pas. Les matins où cette fortune m'était advenue, où le coup d'éponge du sommeil avait effacé de mon cerveau les signes des occupations quotidiennes qui y sont tracés comme sur un tableau noir, il me fallait faire revivre ma mémoire. À force de volonté, on peut apprendre ce que l'amnésie du sommeil ou d'une attaque a fait oublier et qui renaît peu à peu au fur et à mesure que les yeux s'ouvrent ou que la paralysie disparaît. J'avais vécu tant d'heures en quelques minutes que, voulant tenir à Françoise, que j'appelais un langage conforme à la réalité et réglé sur l'heure, j'étais obligée d'user de tout mon pouvoir interne de compression pour ne pas dire « Eh bien, Françoise, nous voici à 5 heures du soir et je ne vous ai pas vue depuis hier après-midi. » Et pour refouler mes rêves en contradiction avec eux et en me mentant à moi-même, je disais effrontément et en me réduisant de toutes mes forces au silence des paroles contraires. « Françoise, il est bien 10 heures. » Je ne disais même pas 10 heures du matin, mais simplement 10 heures, pour que ces 10 heures, si incroyables, eussent l'air prononcées d'un ton plus naturel. Pourtant, dire ces paroles, au lieu de celles que continuait à penser le dormeur à peine éveillé que j'étais encore, me demandait le même effort d'équilibre qu'à quelqu'un qui, sautant d'un train en marche et courant un instant le long de la voie, réussit pourtant à ne pas tomber. Il court un instant parce que le milieu qu'il quitte était un milieu animé d'une grande vitesse et très dissemblable du sol inerte auquel ses pieds ont quelque difficulté à se faire. De ce que le monde du rêve n'est pas le monde de la veille, il ne s'ensuit pas que le monde de la veille soit moins vrai. Au contraire, dans le monde du sommeil, nos perceptions sont tellement surchargées, chacune épaissie par une superposée qui la double, l'aveugle inutilement, que nous ne savons même pas distinguer ce qui se passe dans l'étourdissement du réveil. Est-ce Françoise qui était venue ou moi qui, las de l'appeler, allais vers elle? Le silence à ce moment-là était le seul moyen de ne rien révéler, comme au moment où l'on est arrêté par un juge instruit de circonstances vous concernant, mais dans la confidence desquelles on n'a pas été mis. Était-ce Françoise qui était venue? Était-ce moi qui avais appelé? N'était-ce même pas Françoise qui dormait et moi qui venais de l'éveiller? Bien plus, Françoise n'était-elle pas enfermée dans ma poitrine? La distinction des personnes et leur interaction existant à peine dans cette brune obscurité, où la réalité est aussi peu translucide que dans le corps d'un porc-épic, et où la perception quasi nulle peut peut-être donner l'idée de celle de certains animaux. Au reste, même dans la limpide folie qui précède ces sommeils plus lourds, si des fragments de sagesse flottent lumineusement, si les noms de Taine, de George Eliot n'y sont pas ignorés, il n'en reste pas moins au monde de la veille cette supériorité d'être, chaque matin possible à continuer, et non chaque soir le rêve. Mais il est peut-être d'autres mondes plus réels que celui de la veille. Encore avons-nous vu que, même celui-là, chaque révolution dans les arts le transforme, et bien plus, dans le même temps, le degré d'aptitude ou de culture qui différencie un artiste d'un sot ignorant. Et souvent, une heure de sommeil de trop est une attaque de paralysie après laquelle il faut retrouver l'usage de ses membres, apprendre à parler. La volonté n'y réussirait pas. On a trop dormi, on n'est plus. Le réveil est à peine senti mécaniquement et sans conscience, comme peut l'être dans un tuyau la fermeture d'un robinet. Une vie plus inanimée que celle de la méduse succède, où l'on croirait aussi bien qu'on est tiré du fond des mers ou revenu du bagne, si seulement l'on pouvait penser quelque chose. Mais alors, du haut du ciel, la déesse Mnémotechnie se penche et nous tend sous la forme. Habitude de demander son café au lait. L'espoir de la résurrection. Encore le don subit de la mémoire n'est-il pas toujours aussi simple? On a souvent près de soi, dans ces premières minutes où l'on se laisse glisser au réveil, une variété de réalités diverses, où l'on croit pouvoir choisir, comme dans un jeu de cartes. C'est vendredi matin et on rentre de promenade, ou bien c'est l'heure du thé au bord de la mer. L'idée du sommeil, et qu'on est couché en chemise de nuit, est souvent la dernière qui se présente à vous. La résurrection ne vient pas tout de suite. On croit avoir sonné, on ne l'a pas fait. On agite des propos déments. Le mouvement seul rend la pensée. Et quand on a effectivement pressé la poire électrique, on peut dire avec lenteur, mais nettement, « Il est bien 10 heures, Françoise, donnez-moi mon café au lait. » Oh, miracle! Françoise n'avait pu soupçonner la mer d'irréel qui me baignait encore tout entier et à travers laquelle j'avais eu l'énergie de faire passer mon étrange question. Elle me répondait en effet « Il est 10h10 », ce qui me donnait une apparence raisonnable et me permettait de ne pas laisser apercevoir les conversations bizarres qui m'avaient interminablement bercée les jours où ce n'était pas une montagne de néant qui m'avait retiré la vie. À force de volonté, je m'étais réintégré dans le réel. Je jouissais encore des débris du sommeil, c'est-à-dire de la seule invention, du seul renouvellement qui existe dans la manière de compter. Toutes les narrations, à l'état de veille, fussent-elles embellies par la littérature, ne comportant pas ces mystérieuses différences, d'où dérive la beauté. Il est aisé de parler de celle que crée l'opium. Mais pour un homme habitué à ne dormir qu'avec des drogues, une heure inattendue de sommeil naturel découvrira l'immensité matinale d'un paysage aussi mystérieux et plus frais. En faisant varier l'heure, l'endroit où on s'endort, en provoquant le sommeil d'une manière artificielle, ou au contraire, en revenant pour un jour au sommeil naturel, le plus étrange de tous pour quiconque a l'habitude de dormir avec des soporifiques, on arrive à obtenir des variétés de sommeil 1000 fois plus nombreuses que, jardinier, on obtiendrait de variétés d'œillets ou de roses. Les jardiniers obtiennent des fleurs qui sont des rêves délicieux. D'autres aussi, qui ressemblent à des cauchemars. Quand je m'endormais d'une certaine façon, je me réveillais grelottant, croyant que j'avais la rougeole, ou, chose bien plus douloureuse, que ma grand-mère, à qui je ne pensais plus jamais, souffrait parce que je m'étais moqué d'elle, le jour où, à Balbec, croyant mourir, elle avait voulu que j'eusse une photographie d'elle. Vite, bien que réveillée, je voulais aller lui expliquer qu'elle ne m'avait pas compris. Mais déjà, je me réchauffais. Le pronostic de rougeole était écarté, et ma grand-mère si éloignée de moi qu'elle ne faisait plus souffrir mon cœur. Parfois, sur ces sommeils différents, s'abattait une obscurité subite. J'avais peur, en prolongeant ma promenade dans une avenue entièrement noire où j'entendais passer des rôdeurs. Tout à coup, une discussion s'élevait entre un agent et une de ces femmes qui exerçaient souvent le métier de conduire et qu'on prend de loin pour de jeunes cochers. Sur son siège, entouré de ténèbres, je ne la voyais pas, mais elle parlait, et dans sa voix, je lisais les perfections de son visage et la jeunesse de son corps. Je marchais vers elle, dans l'obscurité, pour monter dans son coupé avant qu'elle ne repartît. C'était loin. Heureusement, la discussion avec l'agent se prolongeait. Je rattrapais la voiture encore arrêtée. Cette partie de l'avenue s'éclairait de réverbères. La conductrice devenait visible. C'était bien une femme. Mais vieille, grande et forte, avec des cheveux blancs s'échappant de sa casquette et une lèpre rouge sur la figure. Je m'éloignais en pensant « En est-il ainsi de la jeunesse des femmes ? Celles que nous avons rencontrées, si brusquement nous désirons les revoir, sont-elles devenues vieilles ? La jeune femme qu'on désire, est-elle comme un emploi de théâtre, où, par la défaillance des créatrices du rôle, on est obligé de le confier à de nouvelles étoiles ? Mais alors, ce n'est plus la même. » Puis une tristesse m'envahissait. Nous avons ainsi dans notre sommeil de nombreuses pitiés, comme les Pietà de la Renaissance, mais non point comme elles exécutées dans le marbre. Inconsistantes, au contraire. Elles ont leur unité, cependant, qui est de nous faire souvenir d'une certaine vue plus attendrie, plus humaine des choses, qu'on est trop tenté d'oublier dans le bon sens glacé, parfois plein d'hostilité, de la veille. Ainsi m'était rappelée la promesse que je m'étais faite, à Balbec, de garder toujours la pitié de Françoise. Et pour toute cette matinée, au moins, je saurais m'efforcer de ne pas être irritée des querelles de Françoise et du maître d'hôtel, d'être doux avec Françoise, à qui les autres donnaient si peu de bonté. Cette matinée seulement, et il faudrait tâcher de me faire un code un peu plus stable. Car, de même que les peuples ne sont pas longtemps gouvernés par une politique de pur sentiment, les hommes ne le sont pas par le souvenir de leurs rêves. Déjà, celui-ci commençait à s'envoler. En cherchant à me le rappeler pour le peindre, je le faisais fuir plus vite. Mes paupières n'étaient plus aussi fortement scellées sur mes yeux. Si j'essayais de reconstituer mon rêve, elle s'ouvrirait tout à fait. À tout moment, il faut choisir entre la santé, la sagesse d'une part, et de l'autre, les plaisirs spirituels. J'ai toujours eu la lâcheté de choisir la première part. Au reste, le périlleux pouvoir auquel je renonçais l'était plus encore qu'on ne le croit. Les pitiés, les rêves ne s'envolent pas seuls. À varier ainsi les conditions dans lesquelles on s'endort, ce ne sont pas les rêves seuls qui s'évanouissent, mais pour de longs jours, pour des années quelquefois, la faculté non seulement de rêver, mais de s'endormir. Le sommeil est divin, mais peu stable. Le plus léger choc le rend volatile. Amis des habitudes, elles le retiennent chaque soir, plus fixe que lui, à son lieu consacré. Elles le préservent de tout heurt. Mais si on les déplace, s'il n'est plus assujetti, il s'évanouit comme une vapeur. Il ressemble à la jeunesse et aux amours. On ne le retrouve plus. Dans ces divers sommeils, comme en musique encore, c'était l'augmentation ou la diminution de l'intervalle qui créait la beauté. Je jouissais d'elle, mais, en revanche, j'avais perdu dans ce sommeil, quoique bref, une bonne partie des cris où nous est rendue sensible la vie circulante des métiers, des nourritures de Paris. Aussi, d'habitude, sans prévoir, hélas, le drame que de tels réveils tardifs et mes lois draconiennes et persanes d'Assuérus, racinien, devaient bientôt amener pour moi. Je m'efforçais de m'éveiller de bonne heure pour ne rien perdre de ses cris. En plus du plaisir de savoir le goût qu'Albertine avait pour eux et de sortir moi-même tout en restant couchée, j'entendais en eux comme le symbole de l'atmosphère du dehors, de la dangereuse vie remuante au sein de laquelle je ne la laissais circuler que sous ma tutelle, dans un prolongement extérieur de la séquestration, et d'où je la retirais à l'heure que je voulais pour rentrer auprès de moi. Aussi, fût-ce le plus sincèrement du monde que je pus répondre à Albertine « Au contraire, ils me plaisent, parce que je sais que vous les aimez. » « À la barque, les huîtres, à la barque !»« Oh, des huîtres, j'en ai si envie !» Heureusement, Albertine, moitié inconstance, moitié docilité, oubliait vite ce qu'elle avait désiré. Et avant que j'eusse eu le temps de lui dire qu'elle les aurait meilleurs chez Prunier, elle voulait successivement tout ce qu'elle entendait crier par la marchande de poissons. « À la crevette ! À la bonne crevette ! J'ai de l'arrêt, tout en vie, tout en vie ! Merlans à frire, à frire ! Il arrive le maquereau ! Maquereau frais, maquereau nouveau ! Voilà le maquereau, mesdames ! Il est beau, le maquereau ! À la moule fraîche et bonne ! À la moule !» Malgré moi, l'avertissement « Il arrive le maquereau » me faisait frémir. Mais comme cet avertissement ne pouvait s'appliquer, me semblait-il, à notre chauffeur, je ne songeais qu'au poisson que je détestais. Mon inquiétude ne durait pas. « Ah, des moules !» dit Albertine. « J'aimerais tant manger des moules !»« Mon chéri, c'était pour Balbec. Ici, ça ne vaut rien. D'ailleurs, je vous en prie, rappelez-vous ce que vous a dit Cottard au sujet des moules. » Mais mon observation était d'autant plus malencontreuse que la marchande des quatre saisons suivantes annonçait quelque chose que Cottard défendait bien plus encore. « À la romaine ! À la romaine ! On ne la vend pas, on la promène !» Pourtant Albertine me consentait le sacrifice de la romaine, pourvu que je lui promisse de faire acheter, dans quelques jours, à la marchande qui crie « J'ai de belles asperges d'Argenteuil, j'ai de la belle asperge !» Une voix mystérieuse, et de qui l'on eût attendu des propositions plus étranges, insinuait « Tonneau, tonneau !» On était obligé de rester sur la déception qu'il ne fût question que de tonneau, car ce mot même était presque entièrement couvert par l'appel « Vitry, vitrier, carreau cassé, voilà le vitrier, vitrier !» Division grégorienne qui me rappela moins cependant la liturgie que ne fit l'appel du marchand de chiffon, reproduisant sans le savoir une de ces brusques interruptions de sonorité au milieu d'une prière qui sont assez fréquentes sur le rituel de l'Église. Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere, dit le prêtre en terminant vivement sur dicere. Sans irrévérence, comme le peuple pieux du Moyen-Âge, sur le parvis même de l'église, jouait les farces et les sotties. C'est à ce dicere que fait penser ce marchand de chiffon. Quand, après avoir traîné sur les mots, il dit la dernière syllabe avec une brusquerie digne de l'accentuation réglée par le grand pape du VIIe siècle. « Chiffon, ferrailles à vendre !» Tout cela psalmodiait avec lenteur, ainsi que ces deux syllabes qui suivent, alors que la dernière finit plus vivement que dicéré. « Peau de lapin !» La Valence, la belle Valence, la fraîche orange. Les modestes poireaux eux-mêmes. Voilà de beaux poireaux. Les oignons. 8 sous, mon oignon. Déferlait pour moi, comme un écho des vagues, où, libre, Albertine put se perdre, et prenait ainsi la douceur d'un suave marimagno. Voilà des carottes à 2 ronds la botte. « Oh !» s'écria Albertine, « des choux, des carottes, des oranges, Voilà rien que des choses que j'ai envie de manger. Faites-en acheter par Françoise. Elle fera les carottes à la crème. Et puis ce sera gentil de manger tout ça ensemble. Ce sera tous ces bruits que nous entendons, transformés en un bon repas. Ah, je vous en prie, demandez à Françoise de faire plutôt une raie au beurre noir. C'est si bon. Ma petite chérie, c'est convenu, ne restez pas. Sans cela, c'est tout ce que poussent les marchands de quatre saisons que vous demanderez. C'est dit, je pars, mais je ne veux plus jamais pour nos dîners que des choses dont nous aurons entendu le cri. C'est trop amusant. Et dire qu'il faut attendre encore 2 mois pour que nous entendions « Haricots verts et tendres, haricots, v'là l'haricot vert !» Comme c'est bien dit, tendre haricot. Vous savez que je les veux tout fins, ruisselants de vinaigrette. On ne dirait pas qu'on les mange, c'est frais comme une rosée. Hélas, c'est comme pour les petits cœurs à la crème, c'est encore bien loin. Bon fromage à la craie, bon fromage. Et le chasselas de Fontainebleau. J'ai de beaux chasselas. Et je pensais avec effroi à tout ce temps que j'aurais à rester avec elle jusqu'au temps du chasselas. Écoutez, je dis que je ne veux plus que les choses que nous aurons entendues crier, mais je fais naturellement des exceptions. Aussi, il n'y aurait rien d'impossible à ce que je passe chez Rebatté commander une glace pour nous deux. Vous me direz que ce n'est pas encore la saison, mais j'en ai une envie. Je fus agitée par le projet de Rebatté, rendu plus certain et suspect pour moi à cause des mots « il n'y aurait rien d'impossible ». C'était le jour où les Verdurin recevaient. Et depuis que Swann leur avait appris que c'était la meilleure maison, c'était chez Rebatté qu'ils commandaient glaces et petits fours. « Je ne fais aucune objection à une glace, mon Albertine chérie, mais laissez-moi vous la commander. Je ne sais pas moi-même si ce sera chez Poiret Blanche, chez Rebatté, au Ritz. Enfin, je verrai. »« Vous sortez donc ?» me dit-elle d'un air méfiant. Elle prétendait toujours qu'elle serait enchantée que je sortisse davantage. Mais si un mot de moi pouvait laisser supposer que je ne resterais pas à la maison, son air inquiet donnait à penser que la joie qu'elle aurait à me voir sortir sans cesse n'était peut-être pas très sincère. « Je sortirai peut-être, peut-être pas. Vous savez bien que je ne fais jamais de projet d'avance. » En tous les cas, les glaces ne sont pas une chose concrète qu'on pousse dans les rues. Pourquoi en voulez-vous ? Et alors elle me répondit par ces paroles qui me montrèrent en effet combien d'intelligence et de goût latent s'étaient brusquement développés en elle depuis Balbec, par ces paroles du genre de celles qu'elle prétendait dues uniquement à mon influence, à la constante cohabitation avec moi, et ces paroles que, pourtant, je n'aurais jamais dites, comme si quelque défense m'était faite par quelqu'un d'inconnu de jamais user dans la conversation de forme littéraire. Peut-être l'avenir ne devait-il pas être le même pour Albertine et pour moi. J'en eus presque le pressentiment, en la voyant se hâter d'employer, en parlant, des images si écrites et qui me semblaient réservées pour un autre usage plus sacré et que j'ignorais encore. Elle me dit, et je fus malgré tout profondément attendrie, car je pensais, certes, je ne parlerai pas comme elle, mais tout de même, sans moi, elle ne parlerait pas ainsi. Elle a subi profondément mon influence. Elle ne peut donc pas ne pas m'aimer. Elle est mon œuvre. Ce que j'aime dans ces nourritures criées, c'est qu'une chose entendue, comme une rhapsodie, change de nature à table et s'adresse à mon palais. Pour les glaces, car j'espère bien que vous ne m'en commanderez que prises dans ces moules démodés qui ont toutes les formes d'architecture possibles. Toutes les fois que j'en prends, temple, église, obélisque, rocher, c'est comme une géographie pittoresque que je regarde d'abord et dont je convertis ensuite les monuments de framboises ou de vanille en fraîcheur dans mon gosier. Je trouvais que c'était un peu trop bien dit. mais elle sentit que je trouvais que c'était bien dit, et elle continua en s'arrêtant un instant, quand sa comparaison était réussie, pour rire de son beau rire qui m'était si cruel, parce qu'il était si voluptueux. Mon Dieu, à l'hôtel Ritz, je crains bien que vous ne trouviez des colonnes Vendôme de glace au chocolat ou à la framboise. Et alors, il en faut plusieurs pour que cela ait l'air de colonnes votives ou de pylônes élevés dans une allée à la gloire de la fraîcheur. Ils font aussi des obélisques de framboises qui se dresseront de place en place dans le désert brûlant de ma soif, et dont je ferai fondre le granit rose au fond de ma gorge, qu'elles désaltéreront mieux que des oasis. » Et ici le rire profond éclata, soit de satisfaction de si bien parler, soit par moquerie d'elle-même de s'exprimer par image si suivie, soit, hélas, par volupté physique, de sentir en elle quelque chose de si bon, de si frais, qui lui causait l'équivalent d'une jouissance. Ces pics de glace du Ritz ont quelquefois l'air du Mont Rose, et même si la glace est au citron, je ne déteste pas qu'elle n'ait pas de forme monumentale, qu'elle soit irrégulière, abrupte, comme une montagne d'Elstir. Il ne faut pas qu'elle soit trop blanche alors, mais un peu jaunâtre, avec cet air de neige sale et blafarde qu'ont les montagnes d'Elstir. La glace a beau ne pas être grande, qu'une demi-glace si vous voulez, ces glaces au citron là sont tout de même des montagnes réduites à une échelle toute petite. Mais l'imagination rétablit les proportions, comme pour ces petits arbres japonais nains qu'on sent très bien être tout de même des cèdres, des chênes, des manseniers. Si bien qu'en en plaçant quelques-uns le long d'une petite rigole dans ma chambre, j'aurais une immense forêt descendant vers un fleuve et où les petits-enfants se perdraient. De même, au pied de ma demi-glace jaunâtre au citron, je vois très bien des postillons, des voyageurs, des chaises de poste, sur lesquelles ma langue se charge de faire rouler de glaciales avalanches qui les engloutiront. » La volupté cruelle avec laquelle elle dit cela excita ma jalousie. « De même, ajouta-t-elle, que je me charge avec mes lèvres de détruire pilier par pilier ces églises vénitiennes d'un porphyre qui est de la fraise, et de faire tomber sur les fidèles ce que j'aurais épargné. Oui, tous ces monuments passeront de leur place de pierre dans ma poitrine, où leur fraîcheur fondante palpite déjà. Mais tenez, même sans glace, rien n'est excitant et ne donne soif comme les annonces des sources thermales. À Montjouvain, chez Mademoiselle Vinteuil, il n'y avait pas de bon glacier dans le voisinage, mais nous faisions dans le jardin notre tour de France en buvant chaque jour une autre eau minérale gazeuse, comme l'eau de Vichy, qui, dès qu'on la verse, soulève des profondeurs du verre un nuage blanc qui vient s'assoupir et se dissiper si on ne boit pas assez vite. Mais entendre parler de Montjouvain m'était trop pénible. Je l'interrompais. « Je vous ennuie. Adieu, mon chéri. » Quel changement depuis Balbec, où je défie Elstir lui-même d'avoir pu deviner en Albertine ses richesses de poésie, d'une poésie moins étrange, moins personnelle que celle de Céleste Albarré, par exemple. Jamais Albertine n'aurait trouvé ce que Céleste me disait. Mais l'amour, même quand il semble sur le point de finir, est partial. Je préférais la géographie pittoresque des sorbets, dont la grâce assez facile me semblait une raison d'aimer Albertine et une preuve que j'avais du pouvoir sur elle, qu'elle m'aimait. Une fois Albertine sortie, je sentis quelle fatigue était pour moi cette présence perpétuelle, insatiable de mouvement et de vie, qui troublait mon sommeil par ses mouvements, me faisait vivre dans un refroidissement perpétuel par les portes qu'elle laissait ouvertes, me forçait, pour trouver des prétextes qui justifiassent de ne pas l'accompagner, sans pourtant paraître trop malade, et d'autre part pour la faire accompagner, à déployer chaque jour plus d'ingéniosité que chez Razade. Malheureusement, si par une même ingéniosité, la conteuse persane retardait sa mort, je hâtais la mienne. Il y a ainsi dans la vie certaines situations qui ne sont pas toutes créées, comme celle-là, par la jalousie amoureuse et une santé précaire qui ne permet pas de partager la vie d'un être actif et jeune. Mais où tout de même le problème de continuer la vie en commun ou de revenir à la vie séparée d'autrefois se pose d'une façon presque médicale. Auquel des deux sortes de repos faut-il se sacrifier ? En continuant le surmenage quotidien ou en revenant aux angoisses de l'absence ? À celui du cerveau ou à celui du cœur ? J'étais, en tout cas, bien content qu'André accompagnât Albertine au Trocadéro. Car de récents et d'ailleurs minuscules incidents faisaient qu'ayant, bien entendu, la même confiance dans l'honnêteté du chauffeur, sa vigilance, ou du moins la perspicacité de sa vigilance, ne me semblait plus tout à fait aussi grande qu'autrefois. C'est ainsi que, tout dernièrement, ayant envoyé Albertine seule avec lui à Versailles, Albertine m'avait dit avoir déjeuné au réservoir. Comme le chauffeur m'avait parlé du restaurant Vatel, le jour où je relevais cette contradiction, je pris un prétexte pour descendre parler au mécanicien, toujours le même, celui que nous avons vu à Balbec, pendant qu'Albertine s'habillait. « Vous m'avez dit que vous aviez déjeuné à Vatel. Mademoiselle Albertine me parle des réservoirs. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Le mécanicien me répondit. « Ah, j'ai dit que j'avais déjeuné au Vatel, mais je ne peux pas savoir où mademoiselle a déjeuné. Elle m'a quitté en arrivant à Versailles pour prendre un fiacre à cheval, ce qu'elle préfère quand ce n'est pas pour faire de la route. » Déjà j'en rageais en pensant qu'elle avait été seule. Enfin, ce n'était que le temps de déjeuner. « Vous auriez pu, » dis-je d'un air de gentillesse, car je ne voulais pas paraître faire positivement surveiller Albertine, ce qui eût été humiliant pour moi, et doublement, puisque cela eût signifié qu'elle me cachait ses actions. Déjeuner, je ne dis pas avec elle, mais au même restaurant. Mais elle m'avait demandé d'être seulement à 6 heures du soir à la place d'armes. Je ne devais pas aller la chercher à la sortie de son déjeuner. Ah ! Fis-je en tâchant de dissimuler mon accablement. Et je remontais. Ainsi, c'était plus de 7 heures de suite qu'Albertine avait été seule, livrée à elle-même. Je savais bien, il est vrai, que le fiacre n'avait pas été un simple expédient pour se débarrasser de la surveillance du chauffeur. En ville, Albertine aimait mieux flâner en fiacre. Elle disait qu'on voyait bien, que l'air était plus doux. Malgré cela, elle avait passé 7 heures sur lesquelles je ne saurais jamais rien. Et je n'osais pas penser à la façon dont elle avait dû les employer. Je trouvais que le mécanicien avait été bien maladroit, mais ma confiance en lui fut désormais complète. Car s'il eût été le moins du monde de mèche avec Albertine, il ne m'eût jamais avoué qu'il l'avait laissée libre de 11 heures du matin à 6 heures du soir. Il n'y aurait eu qu'une autre explication, mais absurde, de cet aveu du chauffeur. C'est qu'une brouille entre lui et Albertine lui eût donné le désir, en me faisant une petite révélation, de montrer à mon ami qu'il était homme à parler, et que, si, après le premier avertissement tout bénin, elle ne marchait pas droit selon ce qu'il voulait, il mangerait carrément le morceau. Mais cette explication était absurde. Il fallait d'abord supposer une brouille inexistante entre Albertine et lui, et ensuite donner une nature de maître chanteur à ce beau mécanicien qui s'était toujours montré si affable et si bon garçon. Dès le surlendemain, du reste, je vis que, plus que je ne l'avais cru un instant dans ma soupçonneuse folie, il savait exercer sur Albertine une surveillance discrète et perspicace, car, ayant pu le prendre à part et lui parler de ce qu'il m'avait dit de Versailles, Je lui disais d'un air amical et dégagé « Cette promenade à Versailles dont vous me parliez avant-hier, c'était parfait comme cela, vous avez été parfait comme toujours. Mais à titre de petite indication, sans importance du reste, j'ai une telle responsabilité depuis que Madame Bontemps a mis sa nièce sous ma garde, j'ai tellement peur des accidents, je me reproche tant de ne pas l'accompagner, que j'aime mieux que ce soit vous. » Vous, tellement sûr, si merveilleusement adroit, à qui il ne peut pas arriver d'accident, qui conduisiez partout, mademoiselle Albertine. Comme cela, je ne crains rien. » Le charmant mécanicien apostolique sourit finement, la main posée sur sa roue en forme de croix de consécration. Puis il me dit ces paroles, qui, chassant les inquiétudes de mon cœur, où elles furent aussitôt remplacées par la joie, me donnèrent envie de lui sauter au cou. « N'ayez crainte, me dit-il, il ne peut rien lui arriver, car quand mon volant ne la promène pas, mon œil la suit partout. À Versailles, sans avoir l'air de rien, j'ai visité la ville, pour ainsi dire, avec elle. Des réservoirs, elle est allée au château, du château au Trianon, toujours moi la suivant, sans avoir l'air de la voir. Et le plus fort, c'est qu'elle ne m'a pas vue. Oh, elle m'aurait vu, ça aurait été un petit malheur. C'était si naturel qu'ayant toute la journée devant moi à rien faire, je visite aussi le château. D'autant plus que mademoiselle n'a certainement pas été sans remarquer que j'ai de la lecture et que je m'intéresse à toutes les vieilles curiosités. » C'était vrai, j'aurais même été surprise si j'avais su qu'il était ami de Morel, tant il dépassait le violoniste en finesse et en goût. Mais enfin, elle ne m'a pas vue. Elle a dû rencontrer du reste des amis, car elle en a plusieurs à Versailles. Non, elle était toujours seule. On doit la regarder alors, une jeune fille éclatante et toute seule. Sûre qu'on la regarde, mais elle n'en sait quasiment rien. Elle est tout le temps les yeux dans son guide, puis levée sur les tableaux. Le récit du chauffeur me sembla d'autant plus exact que c'était, en effet, une carte représentant le château et une autre représentant les Trianon qu'Albertine m'avait envoyée le jour de sa promenade. L'attention avec laquelle le gentil chauffeur en avait suivi chaque pas me toucha beaucoup. Comment aurais-je supposé que cette rectification, sous forme d'ample complément à son dire de l'avant-veille, venait de ce qu'entre ces deux jours, Albertine, alarmée que le chauffeur m'eût parlé, s'était soumise, avait fait la paix avec lui. Ce soupçon ne me vint même pas. Il est certain que ce récit du mécanicien, en m'ôtant toute crainte qu'Albertine m'eût trompé, me refroidit tout naturellement à l'égard de mon ami, et me rendit moins intéressante la journée qu'elle avait passée à Versailles. Je crois pourtant que les explications du chauffeur, qui, en innocentant Albertine, me la rendait encore plus ennuyeuse, n'auraient peut-être pas suffi à me calmer si vite. Deux petits boutons que pendant quelques jours mon amie eut au front réussirent peut-être mieux encore à modifier les sentiments de mon cœur. Enfin, ceux-ci se détournèrent encore plus d'elle, au point de ne me rappeler son existence que quand je la voyais, par la confidence singulière que me fit la femme de chambre de Gilberte, rencontrée par hasard. J'appris que, quand j'allais tous les jours chez Gilberte, elle aimait un jeune homme qu'elle voyait beaucoup plus que moi. J'en avais eu un instant le soupçon à cette époque, et même j'avais alors interrogé cette même femme de chambre. Mais comme elle savait que j'étais épris de Gilberte, elle avait nié, juré que jamais mademoiselle Swann n'avait vu ce jeune homme. Mais maintenant, sachant que mon amour était mort depuis si longtemps, que depuis des années j'avais laissé toutes ses lettres sans réponse, et peut-être aussi parce qu'elle n'était plus au service de la jeune fille, d'elle-même, elle me raconta tout au long l'épisode amoureux que je n'avais pas su. Cela lui semblait tout naturel. Je crus, me rappelant ses sentiments d'alors, qu'elle n'avait pas été au courant. Pas du tout. C'est elle-même, sur l'ordre de Madame Swann, qui allait prévenir le jeune homme dès que celle que j'aimais était seule. Que j'aimais alors. Mais je me demandais si mon amour d'autrefois était aussi mort que je le croyais, car ce récit me fut pénible. Comme je ne crois pas que la jalousie puisse réveiller un amour mort, je supposais que ma triste impression était due, en partie du moins, à mon amour-propre blessé, car plusieurs personnes que je n'aimais pas, et qui à cette époque, et même un peu plus tard, cela a bien changé depuis, affectaient à mon endroit une attitude méprisante, savaient parfaitement, pendant que j'étais amoureux de Gilberte, que j'étais dupe. Et cela me fit même me demander rétrospectivement si, dans mon amour pour Gilberte, il n'y avait pas eu une part d'amour-propre, puisque je souffrais tant maintenant de voir que toutes les heures de tendresse qui m'avaient rendu si heureux étaient connues pour une véritable tromperie de mon ami à mes dépens, par des gens que je n'aimais pas. En tout cas, amour ou amour-propre, Gilberte était presque morte en moi, mais pas entièrement. Et cet ennui acheva de m'empêcher de me soucier outre mesure d'Albertine, qui tenait une si étroite partie dans mon cœur. Néanmoins, pour en revenir à elle, après une si longue parenthèse, et à sa promenade à Versailles, les cartes postales de Versailles... Peut-on donc avoir ainsi simultanément le cœur pris en écharpe par deux jalousies entrecroisées, se rapportant chacune à une personne différente ? Me donnait une impression un peu désagréable, chaque fois qu'en rangeant des papiers, mes yeux tombaient sur elle. Et je songeais que, si le mécanicien n'avait pas été un si brave homme, la concordance de son deuxième récit, avec les « cartes » d'Albertine, n'eût pas signifié grand-chose. Car qu'est-ce qu'on vous envoie d'abord de Versailles, sinon le château et les Trianon ? À moins que la carte ne soit choisie par quelque raffiné, amoureux d'une certaine statue, ou par quelque imbécile, élisant comme vue la station du tramway à chevaux ou la gare des chantiers. Encore ai-je tort de dire un imbécile ? De telles cartes postales n'ayant pas toujours été achetées par l'un d'eux au hasard, pour l'intérêt de venir à Versailles. Pendant 2 ans, les hommes intelligents, les artistes, trouvèrent Sienne, Venise, Grenade, une scie, et disaient du moindre omnibus, de tous les wagons, « Voilà qui est beau !» Puis ce goût passa, comme les autres. Je ne sais même pas si on n'en revint pas au sacrilège qu'il y a de détruire les nobles choses du passé. En tout cas, un wagon de première classe cessa d'être considéré a priori comme plus beau que Saint-Marc de Venise. On disait pourtant « C'est là qu'est la vie, le retour en arrière est une chose factice », mais sans tirer de conclusion nette. À tout hasard, et tout en faisant pleine confiance au chauffeur, et pour qu'Albertine ne pût pas le plaquer sans qu'il osât refuser, par crainte de passer pour espion, je ne la laissais plus sortir qu'avec le renfort d'André, alors que pendant un temps, le chauffeur m'avait suffi. Je l'avais même laissé alors, ce que je n'aurais plus osé faire depuis, s'absenter pendant 3 jours, seul avec le chauffeur, et aller jusqu'auprès de Balbec, tant elle avait envie de faire de la route sur simple châssis, en grande vitesse. 3 jours où j'avais été bien tranquille, bien que la pluie de cartes qu'elle m'avait envoyée ne me fût parvenue, à cause du détestable fonctionnement de ces postes bretonnes. Bonne l'été, mais sans doute désorganisé l'hiver, que 8 jours après le retour d'Albertine et du chauffeur, si vaillant que... Le matin même de leur retour, ils reprirent, comme si de rien n'était, leur promenade quotidienne. J'étais ravie qu'Albertine allât aujourd'hui au Trocadéro, à cette matinée extraordinaire, mais surtout rassurée qu'elle y eût une compagne, Andrée.